Alors, quand nous nous sommes retrouvés, le groupe enseignement, donc avec Thibault, Olivier, Armand, nous sommes un peu répartis les sujets. Et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas ce sujet sur les enseignements excessifs de Jésus. Mais vous savez, il y a parfois des choses qu'on estime finalement peut-être relativement faciles ou banales, et puis quand on s'en approche, eh bien, c'est tout autre chose. Et je dois vous dire bien franchement que j'ai trouvé ce sujet impactant comme peu de sujets que j'ai eu l'occasion de présenter devant vous. Alors vous me direz, Saint-Joël, tu aurais dû être touché par tous les sujets que tu nous as présentés depuis tant d'années. Ben, oui, effectivement, mais on est parfois plus ou moins touché. Et là, c'est vraiment du côté du plus. Voilà. Alors, j'ai été très touché aussi parce que Rachel nous a partagé la semaine dernière dans son témoignage, et après j'ai un peu discuté avec elle lors du repas en commun, que par rapport aux études qu'elle avait faites, elle a un bac plus 5, maintenant elle est à l'IBN, et elle me disait finalement, on a beaucoup de travail à l'IBN, mais aussi parce que c'est la parole de Dieu, et donc ça nous touche, ça nous remue, ça nous remet en question. Et c'est donc autre chose. C'est peut-être ce que le Seigneur veut par ces textes que nous allons regarder. Alors je vous propose de regarder quatre textes. Vous savez que nous avons souhaité prendre cet évangile selon Luc, non pas de façon cursive, mais de façon plus thématique. Et donc je vous propose quatre textes pris dans différents chapitres. Je vous les ai mis ici. Après vous pouvez aussi les lire sur votre Bible pour peut-être mémoriser, pour ceux qui sont visuels, l'emplacement des versets. Donc je vais lire les quatre textes et ensuite je ne vais pas faire une analyse détaillée de chacun d'entre eux, mais plutôt vous proposer cinq pistes de réflexion. Premier texte se trouve en Luc au chapitre 9, versets 23 à 26. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il se renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se détruit lui-même? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Deuxième texte, toujours dans le même chapitre à la fin. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts enterrer leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord faire mes adieux à ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Troisième texte. Chapitre 14, versets 25 à 35. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans haïr... » La seconde 21 dont je tire la traduction mais ne préfère pas, mais le texte est bien précis. « Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas... » son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sa sœur, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui en disant « Cet homme a commencé à construire, il n'a pas pu finir. » De même, si un roi part en guerre contre notre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Si ce n'est pas le cas, alors que l'autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour lui demander la paix. Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le lui rendra-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Quatrième texte, chapitre 18, versets 18 à 27. Un chef interrogea Jésus et dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui répondit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras pas adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » « Je respectais tous ces commandements dès ma jeunesse, » dit-il. Après avoir entendu cela, Jésus lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, l'homme devint tout triste car il était très riche. Voyant qu'il était devenu tout triste, Jésus dit, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. En effet, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Je vous propose donc 5 pistes de réflexion à la suite de la lecture de ces textes qui est suffisante, je pense, pour nous remettre un peu en question. La première, c'est de reconnaître que ces paroles de Jésus sont excessives, déroutantes et choquantes. On a lu 4 textes qui sont chacun dans leur domaine excessif. Perdre sa vie, ne jamais avoir honte de Jésus, refuser d'enterrer son père, ne pas aller dire au revoir à ceux de sa maison, haïr sa femme, haïr ses enfants, vendre tout ce que l'on a. J'aimerais que lèvent la main ceux qui ont fait tout ça. Tout le temps. Alors, ça paraît quand même un peu excessif. Et puis en plus, ça paraît aussi contradictoire avec d'autres enseignements de Jésus. Par exemple, si quelqu'un ne hait pas son frère, il ne peut pas être mon disciple. Qu'est-ce que Jésus a dit? Est-ce qu'il a demandé d'aimer... Il n'a pas demandé d'aimer... Surtout, et même jusqu'à ses ennemis. Alors pourquoi dit-il « Aimez vos ennemis », etc. On se rappelle, hein, le sermon sur la montagne, etc. Et puis là, il nous dit « Si quelqu'un ne hait pas... son père, sa mère, ses enfants, etc., il ne peut pas être mon disciple. » S'il nous demande d'aimer nos ennemis, c'est a fortiori d'aimer notre frère, d'aimer nos enfants, d'aimer notre femme. C'est dans le même évangile, hein, « Aimez vos ennemis », chapitre 6, verset 27. C'est contradictoire aussi, par exemple, avec un autre enseignement, quand Jésus reproche aux pharisiens qu'il lie des fardeaux excessifs sur les épaules de ceux qui les écoutent et qui les suivent. Est-ce que vous ne trouvez pas que ces paroles, c'est quand même un peu un fardeau excessif? Alors pourquoi Jésus reproche-t-il ça aux pharisiens? Et de notre côté, il nous balance ces paroles qui sont quand même assez excessives. Et puis, vous savez, au début de l'évangile, et comme nous l'avons souvent souligné, Luc met par ordre, c'est-à-dire compose son évangile de façon très sophistiquée. Le premier discours qu'il nous donne de Jésus, c'est dans la synagogue de Nazareth, c'est pas chronologique, mais c'est volontaire. Et qu'est-ce qu'il nous est dit dans ce discours? Eh bien, tout le monde s'étonnait des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, chapitre 4, verset 22. Franchement, Je ne sais pas si vous rangeriez ces quatre textes dans la catégorie des paroles de grâce. Ça a l'air plutôt dur que des paroles de grâce. Et puis, moi, je ne sais pas, il me rappelle que Paul, qui pourtant se voulait un bon interprète de la pensée de Jésus, il nous a dit que la foi, c'était sans les œuvres. Alors, pourquoi, du coup, devrions-nous faire tout ça, vendre tout ce que nous avons pour être sauvés? Ça veut dire qu'il faut que je vende ce que j'ai si je veux être sauvé. Mais c'est pas la. Où est la foi sans les œuvres dans cette histoire-là? C'est pas cohérent. Et puis, nous nous rappelons que Jésus disait: venez à moi, vous tous qui vous fatiguez, qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. C'est pas si reposant que ça, ces textes. Alors, comment concilier tout ça? Et puis, vous êtes d'accord avec moi que si vous avez quelques versets de l'Évangile à choisir pour l'évangélisation, ce ne sont pas ces quatre-là que vous prendrez en priorité. Alors, c'est vrai que quand nous lisons les Évangiles, il y a des paroles de Jésus qui nous plaisent. Il y a quelques semaines, Pierre-Yves nous a présenté le chapitre 15 de cet Évangile. C'est sans doute parmi les textes qui nous touchent le plus. Tu l'avais fait ressortir. Et c'est vrai que dans cet évangile selon Luc, nous avons les deux paraboles peut-être les plus célèbres au monde, le bon samaritain et puis le père admirable, ou les deux fils, ou ce que vous voulez, le fils prodigue, comme on dit d'habitude. Et nous revenons à ces textes avec plaisir, avec bonheur. Et puis à un certain nombre d'autres aussi qui nous touchent. Mais si vous lisez et prenez la peine de le faire dans une Bible qui met les paroles de Jésus en rouge, hein, il y a certaines éditions qui font cela, aux États-Unis c'est très fréquent, en France ça le fait aussi parfois, et vous lisez les paroles de Jésus, eh bien, ce dont on s'aperçoit, c'est que peut-être en proportion, les paroles excessives, déroutantes et choquantes sont plus nombreuses que les paroles lénifiantes, apaisantes, tranquillisantes. Parce que Jésus est de loin dans la Bible celui qui parle le plus du jugement dernier, des peines éternelles. C'est celui qui parle aux pharisiens de façon tellement sévère qu'au chapitre 11, il y en a un qui lui dit « Eh, maître, ce faisant, tu nous dis des insultes !» C'est celui dont les paroles ont été jugées tellement difficiles, et ça c'est dans un autre évangile, je cite Jean 6, verset 60, que certains ont dit « Oh, ces paroles sont dures, qui peut les entendre ?» Et désormais, ils ne le suivaient plus. Donc, nous avons à reconnaître que parfois, nous trions assez volontiers entre les paroles de Jésus qui nous plaisent, qui font un écho positif, et puis celles qui, quelque part, nous dérangent et que nous lisons un peu moins, ou en tout cas, nous insistons un peu moins là-dessus. Voilà. Mais s'il nous les a dites, s'il les a dites, c'est bien pour quelque chose. Alors mon deuxième point, c'est qu'il faut mettre de côté les échappatoires faciles. Parce que face à ces paroles-là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va essayer de contextualiser. On va dire, ah ben oui, c'est le contexte qui permet de relativiser ces paroles-là. Sauf que j'ai pris quatre textes, dans quatre contextes différents, et qui finalement, peu ou prou, nous disent la même chose. Ou en tout cas, sont tout à fait concourant dans leur radicalité. Donc, première excuse, première échappatoire, le contexte, pas vraiment. Deuxième échappatoire, parfois, vous savez, on dit, s'il y a un texte qu'on trouve qu'une fois, c'est peut-être pas aussi important qu'un texte qu'on trouve plusieurs fois. Manque de chance, c'est que ces textes-là, on les trouve quatre fois dans l'évangile selon Luc, et puis quand on va chercher dans les autres évangiles, on les retrouve aussi. Donc c'est pas simplement une marotte de Luc, c'est que Matthieu il avait entendu exactement la même chose et Pierre a rapporté à Marc exactement la même chose. Et puis je citais ce texte de Jean 6 pour l'évangile selon Jean qui est un peu différent, mais il y a des textes tout aussi radicaux dans l'évangile selon Jean. Donc ça marche pas. Deuxième échappatoire de côté. Troisième échappatoire, on peut dire, ah oui mais tu sais Joël, si quelqu'un ne hait pas son frère, sa mère ou sa sœur, c'est un sémitisme. Ça veut dire que en hébreu, eh bien, tu vois, tu relis Malachie chapitre 1, j'ai haï Ésaü et j'ai aimé Jacob, c'est juste pour dire qu'on aime plus l'un que l'autre. Alors, ce n'est pas faux, hein, c'est assez vrai cela, que ça peut être un sémitisme. Sauf que si je lis ça, eh bien, je m'aperçois que Jésus dit « si quelqu'un ne hait pas ». Alors c'est vrai que si je vais dans le parallèle en Matthieu chapitre 10, verset 37, il est dit « Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Alors, Matthieu, il a pris la version soft. Sauf que Jésus, j'en suis persuadé, a prononcé plusieurs fois les mêmes paroles. Quand on pense que pendant 3 ans et demi, il rassemblait des foules jour après jour, puis donnait des discours, ben, ça veut bien dire que peut-être un jour, il a dit « plus que moi », et c'est ce que Matthieu a noté, mais une autre fois, il a dit « si quelqu'un ne hait pas ». Et c'est ce qui a été rapporté à Luc, puisque Luc n'était pas là. Et donc, si Luc le prend la forme radicale, c'est bien que Jésus l'a dite. Et donc, la question se pose et reste toujours présente devant nous, pourquoi Jésus a-t-il pris cette forme radicale? Alors, le quatrième échappatoire, ça peut être de dire « oui, mais ça, c'est bon, c'est des versets, mais c'est pour une élite ». Alors, ça a été souvent ce qui a été évoqué dans l'histoire de l'Église. Il y avait les chrétiens de base, voilà, et puis il y avait ceux qui étaient appelés à un appel supérieur. Peut-être qu'ils allaient dans un couvent, peut-être qu'ils allaient au sommet d'une colonne dans le désert, on ne sait pas. Voilà. Mais sauf que là, ça ne colle pas trop, puisque même si c'est historiquement vrai qu'il y a eu cette distinction qui a été faite, là, quand on lit le texte, eh bien, qu'est-ce qu'on voit au chapitre 9? Il dit à tous, bon, au chapitre 14, de grandes foules suivaient Jésus. Alors d'accord, il s'adresse ponctuellement à celui qui veut aller enterrer son père, celui qui est riche et qui lui demande des choses sur la vie éternelle. Mais à côté, il y a des propos qui sont très généraux. Donc la quatrième échappatoire, ça ne marche pas. Et puis Jésus dit chaque fois, si quelqu'un, un homme, etc. La cinquième échappatoire, elle est plus subtile. Certains ont dit, mais voyez, en fait, c'est que Jésus... propose un idéal magnifique, un idéal lointain, mais en fait c'est pour nous faire prendre conscience que nous serons toujours incapables d'atteindre cet idéal, et donc nous allons nous rejeter sur sa grâce. C'est une idée intéressante, sauf qu'elle ne marche pas non plus, parce que Jésus là, il est cash direct. C'est pas oui, et puis après vous vous rendez compte que vous n'y arriverez pas, mais je suis là, etc. Alors, nous parlerons de la grâce plus tard, mais la façon dont c'est tourné ne suggère pas cela. Alors, une autre échappatoire, c'est se dire, ah ben oui, mais vous savez, dans la vie chrétienne, c'est très simple. Il y a deux étapes. D'abord, on reçoit Jésus comme sauveur. On vit un petit peu comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis après, un deuxième jour, on reçoit Jésus comme Seigneur. Et alors, on passe du stade de fidèle au stade de disciple. C'est des méditations que j'ai entendues hein, dans l'assemblée de frères, ça. Là, c'est vraiment, à mon avis, un peu le nœud du problème. Parce que je pense que ce que ces textes nous enseignent d'abord et avant tout, c'est qu'il nous faut accepter l'évangile de la Seigneurie de Christ. L'évangile de la Seigneurie de Christ. Jésus est à la fois Sauveur et Seigneur. Et je dirais, quelque part, il y a les deux en un. Et il faut savoir accepter, excusez-moi l'expression, elle peut peut-être paraître un peu irrespectueuse, mais c'est le package. L'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas dire, ah ben oui, mais j'accepte Jésus comme sauveur, comme ça j'ai mon ticket pour le ciel, et puis Seigneur, ben on verra. On verra. On verra. Non. Et Paul dit exactement la même chose en Romains au chapitre 9, non, chapitre 10, verset 9, quand il dit la parole de la foi que nous prêchons, si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Et puis, si je prends même dans ce même évangile, au chapitre 20 et au verset 1, eh bien, Jésus était dans le temple, il évangélisait, et la question qui vient immédiatement sur le sujet, c'est la question de l'autorité de Jésus. Et donc, dans cet évangile selon Luc, au chapitre 9 et au verset 18, si je reprends un petit peu la péricope en allant un petit peu en arrière, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Jésus interroge ses disciples pour savoir un peu de qui il est. Et Pierre répondant lui dit, le Christ de Dieu. Le Christ de Dieu. Donc, il confesse Christ comme Messie. Et qu'est-ce que dit Jésus ? Eh bien, le Messie dont il est question, le Messie que tu confesses, c'est un Messie un peu spécial. Puisque, qu'est-ce qu'il leur dit ? Il leur commanda de ne dire ceci à personne, disant, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Et c'est après, et il disait à tous, si quelqu'un veut venir après moi. Donc, c'est très bien de confesser Jésus comme le Messie, comme celui qui vient de la part de Dieu et qui va accomplir lui-même cette œuvre de la croix en passant lui-même par la croix. Mais si on veut être cohérent, eh bien, il faut continuer. Et il faut accepter qu'il n'y a pas simplement cela et que ça enchaîne avec le verset 23. Et il disait à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce à moi. Donc, Christ est le Messie qui vient me sauver. Mais Christ est aussi le Seigneur qui a tous les droits sur ma vie. Et c'est pour cela que nous avons tous ces textes dans le Nouveau Testament. Je pense à 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Nous avons été achetés à prix. Ou Romains 3, versets 21 et suivant jusqu'au chapitre 5, va nous présenter Jésus comme celui qui nous sauve. Mais l'Épître aux Romains ne s'arrête pas à la fin du chapitre 5. Elle continue au chapitre 6 avec cette idée de notre mort avec lui, d'être ressuscité avec lui et de livrer nos corps et de livrer nos membres en instruments pour la justice. Et alors, si vous voulez un autre exemple, on peut prendre ce que Pierre nous dit dans ses épîtres. Il y a une expression que Pierre utilise très souvent, M. Russier l'a mentionné souvent dans ses prières, « Notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ ». Voilà. Parce que, vous savez, on a souvent l'habitude de dire « Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus ». Hein ? Faut obéir au Seigneur Jésus, il faut aimer le Seigneur Jésus, etc. C'est un peu facile de dire « Seigneur Jésus » comme cela. Puis on le dit parce qu'on est habitué. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment ? En quoi cela nous implique de dire « Seigneur Jésus » ? C'est pas juste parce que c'est un titre valise, hein ? Non, c'est Seigneur Jésus. Jésus donc nous donne deux expressions. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et donc je vais détailler un petit peu ces deux expressions, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Nous sommes en l'an 30, près de Jérusalem, et il y a quelqu'un qui est là, il y a un soldat qui l'accompagne. Il a un gros morceau de bois sur le dos et il est en train de le porter. Qu'est-ce que pensent ceux qui croisent ce soldat et cet homme ? Lui, il va mourir dans pas longtemps parce que la crucifixion, eh bien, ça a été un supplice auquel jamais personne n'a survécu. 6000 personnes crucifiées lors de la révolte de Spartacus sur la voie Appia. Aucun survit. C'est le supplice, un des supplices les plus atroces qu'ait inventé l'être humain. Et que nous dit Jésus ? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il prenne sa croix. Et au sens direct, je pense que ça veut dire que nous devons être prêts à mourir. Sur les 12 apôtres, selon les témoignages dignes de foi et que l'histoire de l'Église nous a laissés, 11 sont morts martyrs. Et Pierre est mort upside down, avec la tête en bas, parce qu'il ne voulait pas être crucifié comme son maître. Et puis aujourd'hui, et ça a été vrai sur les 20 derniers siècles, il y a des chrétiens qui meurent. Christelle, tu souvent pour nos frères et sœurs persécutés dans les pays musulmans, peut-être aujourd'hui dans une église au nord du Nigeria, parce que Boko Haram vient surprendre les chrétiens rassemblés et puis tous les tuer. Gabriel Pfister recevait, qui était là dimanche dernier avec nous, s'occupe du fonds missionnaire en Suisse et nous racontait l'histoire d'un frère. C'est Marianne Vestal qui lui a rapporté ça. Donc c'est il y a quelques jours, hein, du côté de Goma, il a tué tous ses enfants. Il en avait 8, hein, je crois, 8 enfants. Il a tué ses 8 enfants parce qu'il était chrétien. Et il était au culte le dimanche d'après. Et il a eu à cœur de remercier Dieu. Ça, c'est quelqu'un qui a pris sa croix. Et les enfants aussi. Voilà. Alors, nous n'avons pas à nous dire qu'est-ce qui se passerait s'il y avait la persécution à Antony en France. Les choses sont données pour le moment, c'est le Seigneur lui-même qui le dit. Mais on est obligé de dépasser un petit peu ce sens direct. Parce que Jésus dit bien qu'il prenne sa croix chaque jour. Et celui qui était crucifié, eh bien, était crucifié une fois. Donc, s'il prenne sa croix chaque jour, ça montre bien que l'enseignement que Jésus veut nous donner a forcément un sens symbolique. Et ce sens symbolique, c'est que quelqu'un qui va mourir sur une croix, eh bien, il n'a plus rien à lui. Ça ne sert à rien de penser qu'il a de l'argent, de la réputation, quoi que ce soit, non, c'est fini, puisqu'il va mourir. Et Paul nous dit, Romains chapitre 8, verset 13, car si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Vous vivrez. Et l'exemple de Jésus nous est donné. C'est lui qui est mort d'abord et qui est ressuscité. Il est mort pour vivre. C'est ce qu'il vient de dire juste avant, Luc chapitre 9, verset 22. Verset 22 précède le verset 23. Il y a un chanteur chrétien que j'aime bien qui s'appelle Noël Colombier. C'est lui qui a mis en musique le 76 de Reflet. Et il a un chant quand il met en musique le Nouveau Testament qui s'appelle « À qui père gagne ?»« à qui père gagne qui... » Sa vie, la gagne. Voilà, il y a qui perd gagne. Et c'est ce à quoi, finalement, Jésus nous invite à jouer, entre guillemets, à qui perd gagne. Parce que qu'est-ce qu'il nous dit? Quiconque voudra sauver sa vie la perdra, quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi, celui-là la sauvera. Une des histoires missionnaires qui a le plus touché le monde entier au XXe siècle, c'est l'histoire de Jim Elliot. Jim Elliot était un missionnaire qui est parti avec trois ou quatre de ses amis en Équateur, qui a voulu prêcher l'évangile aux Indiens Oka. Et il a été trahi par un Oka dont il avait cru être son ami, faire son ami, et finalement ils ont été massacrés. Et à la suite de cela, l'évangile a quand même progressé. Et Jim Elliot a eu cette formule qui est restée et qui reste dans le cœur. Il n'est pas fou celui qui renonce à ce qu'il ne peut pas garder pour obtenir ce qu'il ne peut pas perdre. Jim Elliot a renoncé à ce qu'il ne pouvait pas garder et il a obtenu ce qu'il ne peut pas perdre. Simplement, il y a deux côtés à la pièce que Jésus nous présente. Il y a le côté pile et le côté face. Le côté pile, c'est prendre sa croix. Le côté face, c'est et me suivre. Parce que le renoncement que Jésus nous demande, hein, puisque finalement prendre sa croix, c'est pas accepter les circonstances difficiles, c'est se renoncer à soi-même, c'est finalement. Ça, c'est le côté plus négatif. Le côté positif, c'est suivre Jésus. C'est la deuxième face de la pièce. Parce que Jésus ne nous demande pas simplement à renoncer. Il nous demande, il veut que nous soyons comblés. C'est pour ça qu'il est question de l'amour de moi. Et c'est pour ça que juste après ce récit, encore une fois, Luc agence bien les choses, il est question de la transfiguration. Puisque sur la transfiguration, qu'est-ce qui se passe? La voix s'est fait entendre, Jésus se trouva seul. Et ils ont vu Jésus, ils ont adoré Jésus, ils ont été encouragés à écouter les paroles de Jésus. Celui-ci est mon fils, écoutez-le. Et ensuite, voyons, ils sont en mission envoyés par Jésus. Donc, si nous avons à renoncer à nous-mêmes, à ne plus nous mettre sur le trône, c'est parce que nous suivons quelqu'un, quelqu'un que nous aimons, quelqu'un qui est aimé, qui est connu et qui veut nous combler. Parce que si c'est juste prendre sa croix pour avoir une liste de règles, ça ne marchera jamais, ça ne marchera jamais. Et finalement, cet appel que Jésus fait retentir dans mon cœur, eh bien, c'est un appel libérateur, parce que je ne serai plus soumis à la tyrannie du moi d'abord. Parce que c'est ça, finalement. C'est ça, finalement. Parce que depuis ce fichu incident, avec un grand I, du jardin d'Éden, eh bien, je veux être autonome, je veux être le centre de tout. Et Jésus dit, ben non. Et prendre sa croix, c'est avant tout accepter d'être détrôné. D'être détrôné. Et d'accepter, du coup, le chemin, la place, les circonstances dans lesquelles Jésus veut me voir le suivre. Parce que la croix, c'est pas finalement, ouais, je porte une drôle de croix parce que je suis obligé de m'occuper de ma grand-tante qui est malade. C'est pas ça le sujet. Non, là, porter sa croix, c'est accepter la vocation que Dieu nous donne. Alors on raconte cette histoire dans un monastère, un moine cordonnier se plaignait dans sa prière de son travail ingrat. « Je passe mes journées dans cet atelier poussiéreux, je respire l'odeur du cuir moisi, et tout mon art consiste à réparer des vieilles godasses. Je sais bien que chacun doit porter sa croix, mais la mienne ne me convient pas. » Dieu lui propose de l'emmener au ciel, dans le lieu où les croix sont entreposées, afin qu'il choisisse celle qui lui convient. Le moine essaye les différentes croix, mais il trouve qu'elles sont toutes particulièrement pénibles à porter. Après de nombreux essais, il finit d'en trouver une qui lui convient. Il la présente au gardien des croix qui lui dit avec un petit sourire « Tu as choisi la croix que tu as déposée en arrivant. » Nous devons vivre dans l'assurance que Dieu nous donne la force de porter la croix qui est la nôtre. Donc, attention à un faux enseignement, il n'y a pas deux étapes. Jésus doit être le Seigneur de notre vie, le Seigneur de plus en plus. Et pas simplement pieusement dans nos prières quand nous commençons en disant, sans y réfléchir un peu, Seigneur Jésus. Alors ensuite, eh bien, il faut appliquer cette soumission de principe à des domaines particuliers. Et le domaine le plus cité par Jésus, c'est lequel ? L'argent. C'est mon argent. Et c'est pour cela que, toujours dans mon texte, hein, qu'est-ce qu'il dit « Car que profitera-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd lui-même » Dans les versets 24, 25 et 26, vous aurez remarqué, du chapitre 9 de l'Évangile selon Luc, vous aurez remarqué qu'il y a quatre quarts. Donc, qu'il se renonce soi-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et me suive. Donc, se prendre sa croix, suivre Jésus, ces deux côtés de la pièce. Et ensuite, trois illustrations, trois justifications. Et la deuxième, c'est « Car que profitera-t-il à un homme de gagner le monde entier et faire la paix ? S'il se perd, il se détruit lui-même. » Alors ça, ce n'est pas simplement pour Elon Musk. D'accord ? C'est valable pour chacun de nous. Alors c'est valable pour l'homme riche dont il est question, le chef, au chapitre 18, nous avons lu ce récit, ce chef du peuple. Mais c'est valable aussi, et ça, parce qu'on pourrait dire, oui, c'est très bien ça, gagner le monde entier, moi, je n'ai pas vraiment cette ambition-là, donc Seigneur, ce verset-là, cette deuxième justification, c'est bien, je suis tranquille, ça ne m'importe pas. Sauf qu'au chapitre 12, et voilà, encore une parole difficile, excessive de Jésus, au verset 33, qu'est-ce qu'il est dit ? « Ne crains pas, petit troupeau, car il a plu au Père de vous donner le royaume. » Verset 32. Oh, ça c'est un beau texte, hein. Jean-Jacques Ozeman l'a même mis en musique dans le 129 des hymnes et cantiques. Mais vendez ce que vous avez et donnez l'aumône. Ah oui, d'accord. Le petit troupeau, il doit même vendre ce qu'il a. Donc ça, c'est quand même pas forcément très confortable. Et puis nous avons aussi dans ce même évangile, au chapitre 6, une parole que nous ne trouvons d'ailleurs pas dans la contrepartie que nous avons du discours du sermon sur la montagne. Là c'est le sermon dans la plaine chez Luc, et cette plaine elle est un peu aride parce qu'au verset 24 il est dit « Mais malheur à vous riches, Et au début, chapitre de ce sermon dans la plaine, chapitre 6, verset 20, Bienheureux vous pauvres. La version mathéenne, pauvres en esprit, elle nous est assez confortable parce que bien entendu, c'est celui qui devant Dieu s'estime pauvre, reconnaît son insuffisance, son incapacité à comprendre les choses spirituelles, blablabla. Voilà. Là, ici, la version de Luc, elle est plus raide. Et je pense, encore une fois, que Jésus a bel et bien donné les deux. Et il y a beaucoup d'autres textes comme cela dans Luc. Je ne sais pas s'il était un médecin qui était mal payé ou bien payé, mais en tout cas, il parle très souvent d'argent. On aurait presque pu faire un thème sur Jésus et l'argent à travers l'évangile selon Luc. Peut-être qu'on a trouvé que c'était un peu dangereux et puis on n'y a pas pensé, mais bon, voilà. Bref. Et puis c'est vrai que c'est un sujet qui me concerne, puisque objectivement, allez, moi, on est plutôt dans les riches. Alors bien sûr, on peut faire les atténuations. Ouais, mais vous saviez, Abraham, il était fidèle et puis il a été très riche. Dieu l'a béni. Oui, bien sûr. Et puis il est question aussi de 1 Timothée 6, à ceux qui sont riches dans les présents siècles, il leur a pas demandé de devenir pauvres. Il leur a juste demandé de ne pas se confier dans les richesses et de bien donner. Donc vous voyez, donc, Paul est beaucoup moins excessif que Jésus. Et puis acte 2, ah ben oui, bien sûr, acte 2, les disciples, ils vendaient tout ce qu'ils avaient, mais ça, c'était juste le début de l'histoire de l'Église à Jérusalem. Ça n'a pas duré longtemps, vous voyez. Dès la suite, là, ça a commencé à foirer, et puis après, on n'en parle plus, hein, dans le sud du livre des Actes, de cette histoire de tout mettre en commun les biens. Donc il faut arrêter avec ces histoires. Et puis, même Jésus, au chapitre 8 de notre évangile, il y avait des femmes riches qui étaient avec lui, qui l'assistaient de leurs biens. Il leur a pas demandé de tout vendre, puisqu'elles ont continué à l'aider avec leur richesse. On est fort, hein? Le sujet, il n'est pas là. Le problème du chef, hein, le chef du chapitre 18, son problème, c'était que il voulait pas que Jésus soit seigneur de ses richesses. Et c'est pour cela que Jésus met le doigt là-dessus. Peut-être que pour quelqu'un ici, le sujet, il serait différent. Et que si Jésus avait dit, eh bien, donnez tout ce que vous avez, il n'y aurait pas eu de problème. Par contre, il y aurait peut-être eu un problème à honorer son père et sa mère. Ah oui, ça, je n'ai pas envie de le faire. Il y aurait eu peut-être un problème, ne porte pas de faux témoignages. Ah oui, mais moi, j'aime tellement dire un petit truc sur quelqu'un. Peut-être il y aurait eu un problème sur ne sois pas adultère. Ah ouais, mais renoncer à mon porno, c'est compliqué. Chacun a ses domaines. Peut-être que si Jésus stigmatise particulièrement celui de l'argent, vous connaissez la triade, argent, sexe et pouvoir, c'est les trois domaines sur lesquels il y a le plus d'enjeux, eh bien, c'est peut-être parce que c'est celui qui concernait les gens de son époque, les pharisiens qui étaient avares, etc. Mais parce que finalement, l'argent, c'est souvent un révélateur d'autre chose. Et on le constate malheureusement très souvent. Et donc la question qui se pose à moi, hein, c'est par rapport à mon argent et par rapport à tous les domaines. Vous savez, parfois on représente le cœur de l'homme, mon cœur comme une maison, et puis il y a un placard, alors là, lui, il est fermé. Vous savez, c'est comme quand on loue pour Airbnb, non, non, ce placard-là, il est fermé, désolé, vous n'y avez pas accès. Eh bien, c'est un peu comme ça. Est-ce que le Seigneur, il a accès à tous les placards? Je sais que chez moi, ce n'est pas vraiment toujours le cas. Deuxième application, je n'en ferai que deux domaines particuliers. J'aimerais quand même revenir à cette histoire de celui qui ne hait pas son père, sa mère. Pourquoi Jésus le dit-il comme cela? Ça nous est peut-être plus difficile à percevoir aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société très individualiste. Et le salut, c'est individuel. Ça, c'est un truc qu'on a bien compris. La foi, c'est privé. Hein. D'ailleurs, dans le monde dans lequel nous vivons, c'est bien quelque chose qu'on promeut, hein, la foi dans le domaine privé. Donc juste pour moi tout seul, c'est bien. À l'époque, ce n'était pas du tout le cas. Il se tourna vers le Seigneur, lui et toute sa maison. Alors nous, on dit oui, mais est-ce que chacun d'entre eux s'est bien converti individuellement? Ce n'était pas tellement l'idée de l'époque. L'idée de l'époque, eh bien, on embrassait la foi de son clan, de sa tribu, etc. C'était normal. C'était dans l'ordre des choses. Et donc finalement, ce que Jésus pointe dans ce fameux texte du chapitre 14 et du verset 25, 26, ce qu'il pointe, c'est bien le fait que la suivance de Jésus l'emporte sur toute allégeance autre, y compris les allégeances les plus naturelles, les plus immédiates, celles de notre famille proche, de ceux qui sont proches de nous. Et donc, ce que Jésus demande, ce n'est pas de haïr, c'est de dire, si on vous oblige à choisir entre l'allégeance au groupe et moi, eh bien, il n'y a pas d'autre choix que de me préférer. Et puis, sur un plan plus large, je suis persuadé que si je laisse la seigneurie de Christ, si j'accepte l'évangile de la seigneurie de Christ, je serai aussi potentiellement un meilleur mari, un meilleur frère, un meilleur fils, une meilleure fille. Et que du coup, je pourrai les aimer mieux, quelque part en les haïssant. Alors on sait que ces choix radicaux s'imposent aujourd'hui, en 2025, à un certain nombre de personnes, en particulier dans les pays musulmans. Mais là-dessus, je crois que nous n'avons pas grand-chose à dire parce qu'il faudrait une expérience. Je termine par mon cinquième et dernier point. C'est recevoir la grâce abondante à la disposition du disciple. Pourquoi? Parce que se dire dans ces cas-là, mais qui peut être disciple, franchement? Si je relis ces textes, Joël, tu donnes des éléments, mais ne peut pas être disciple, pas être disciple, pas être disciple. Qui c'est qui peut être disciple dans ces conditions-là? Jésus, en fait, ce qui est très frappant, c'est qu'il ne cherche pas des disciples. Je fais allusion à cet épisode de la fin du chapitre 6 de l'évangile selon Luc. Vous savez, quand certains disent, oh là là, ces paroles que tu nous dis, elles sont trop dures à entendre, on s'en va. Et puis, il y en a 12 qui restent là. Et qu'est-ce que fait Jésus? Il leur dit, oh, attendez, vous, et au moins vous restez, hein, parce que vous avez vu tous ceux qui se sont barrés, moi j'ai quand même besoin de quelques disciples, sinon je ne vais pas être un rabbi de bon statut. Non, non, il leur dit, et vous, vous voulez aussi vous en aller? Ce n'est pas vraiment ce qu'on appelle le marketing de l'Église. Vous savez, les églises comme un seeker, comme on appelle ça aux États-Unis. Ben oui, vous voulez vous en aller? Oh, regardez, la porte est là. Et Jésus, dans les exemples qu'il va donner au chapitre 14 de l'Évangile selon Luc, après, si quelqu'un ne hait pas, il ne peut pas être mon disciple, il va parler de quelqu'un qui doit construire une tour, qui doit calculer la dépense, quelqu'un qui va à une armée et qui doit aussi calculer la dépense. Donc, mais franchement, c'est un calcul qui vaut la peine. Et alors, ce qui est très frappant, c'est que vous savez, le mot disciple, dans tout le Nouveau Testament, ne se trouve que dans les évangiles et dans les actes. Intéressant. Mais juste après nos récits, eh bien, il est question de disciples. Parce que je suis toujours défaillant. Et si moi je me lève pour vous présenter ces paroles excessives, ce n'est pas parce que je suis un meilleur disciple, ce n'est pas parce que j'ai pris ma croix chaque jour, pas du tout, et que j'ai suivi Jésus. Honnêtement, c'est de lire ces textes et de réfléchir dessus, ça m'a vraiment remis en question. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Que du coup, personne ne peut être disciple de Jésus. Mais si, il est question des disciples. Il est question des disciples. Et puis parmi les disciples, il y en a un sympathique. Vous connaissez son nom, il s'appelle Pierre. Ben oui, il est sympathique parce que qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce disciple, il renie Jésus trois fois à un moment unique, après s'être endormi alors que Jésus voulait qu'il soit avec lui, à un autre moment unique. Et puis, peu d'heures après, qu'est-ce que Jésus fait? 2 jours après, il le retrouve au bord d'un lac et lui dit « T'es disqualifié, mon garçon, en termes de disciple. T'as vu ce que t'as fait? Est-ce que tu as pris ta croix le jour où tu m'as renié? Chaque jour, je t'avais demandé. Et toi, qu'est-ce que tu as fait ?» Encore cet appel. Sois berger de mes brebis. Donc, les disciples, et nous aussi, pauvres disciples que nous ne sommes pas disqualifiés si nous avons des défaillances qui me relèvent dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Mais les disciples se sont mis en route. Et juste après l'histoire du riche, qu'est-ce qu'il est dit, Pierre? Que dit Pierre? Seigneur, nous avons tout quitté et nous sommes venus après toi. Chapitre 18. Relisons ces versets. Luc chapitre 18, verset 28. Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Il leur dit, en vérité, je vous dis qu'il n'y a personne qui ait quitté maison ou parents ou frères ou femmes ou enfants pour l'amour du royaume de Dieu. Chapitre 9, c'était pour l'amour de moi. Là, c'est pour l'amour du royaume de Dieu qui ne reçoivent beaucoup plus en ce temps-ci et dans le siècle qui vient, la vie éternelle. Donc, ce que le Seigneur nous demande, chers amis, ce qu'il me demande, c'est de me mettre en route. Je serai toujours un disciple défaillant, toujours. Mais je me mets en route pour aller vers celui qui a ravi mon cœur. Et alors, seule la grâce permet de recevoir cela. Et cette grâce, eh bien, c'est la seule qui permet de recevoir, de comprendre et de mettre en pratique progressivement ces paroles excessives de Jésus. Et la grâce, il en a témoigné envers ses disciples à lui. Vous voyez, à la fois Jésus a ces paroles qui peuvent paraître très très dures, très absolues, parce qu'il nous donne une perspective, une fulgurance, un objectif à long terme. Et en même temps, il est tellement plein de grâce envers ses disciples. Et qui c'est qui l'a compris? Mais c'est mon vieil ami Pierre aussi, parce que dans sa première épître au chapitre 5, qu'est-ce qu'il fait? Il termine: la grâce dans laquelle vous êtes, c'est la vraie grâce de Dieu. Et dans le chapitre, dans sa seconde épître, le dernier verset qu'il laisse, mais c'est: croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est ça qu'il avait compris, Pierre. Qu'il était un disciple défaillant, mais qu'il avait la grâce de Dieu qui allait l'accompagner. Cette divine grâce qui est douce et efficace à nos pauvres cœurs. Parce qu'il avait eu la grâce de la rencontre. Si nous avons juste des menaces, si nous avons juste des exigences, des choses qui nous sont imposées, nous n'irons pas loin. Mais si nous avons eu cette grâce de la rencontre à cause de moi, cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ, alors nous comprendrons que la grâce de Dieu nous enseigne à vivre en attendant, comme Paul le dit en Tite 2, versets 11 et 14. Et alors j'aimerais bien que, si vous voulez bien, nous nous levions pour chanter le 256 de Reflet. C'est un chant que Lucie, tout à l'heure, nous n'étions pas concertés, mais le 111, c'était exactement ça. Je donne ma vie au Sauveur Jésus-Christ. Oui, bien sûr, nous avons envie de chanter cela, mais c'est une aspiration. Et le 256, c'est l'expérience de Paul. C'est l'expérience que Paul avait vécue lui-même. Et qu'est-ce qu'il peut dire? J'ai combattu le bon combat à la fin. Parce qu'il avait connu Jésus-Christ. Alors, chantons ce 256 de Reflet. Ce qui m'était cher pour construire ma vie, utile et précieuse, l'once monte. Ce qui m'était gain n'a plus de valeur, ne me sert à rien, car je infini et le don précieux.
joie.